Le collège de Kuta.
Des interviews,
des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez On te choque.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans cette dernière émission de l'année du Club Radio.
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous avant les grandes vacances d'été.
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons remporté le premier prix Mediatix dans la catégorie podcast Web Radio Collège. Nous sommes allés à la cérémonie du prix qui a eu lieu à l'école de journalisme de Montpellier.
C'était super, nous en avons profité pour déjeuner au zoo du Lunaret. Au programme aujourd'hui, découvertes, voyages, jeux vidéo, actualités et anecdotes surprenantes. Voici ce qui vous attend.
Enora et Aurore nous emmèneront à la découverte de la Laponie. Ensuite, Louis et Charlie, les célèbres présentateurs de TF2.
Nous parlerons de l'univers de Nintendo, des premiers jeux vidéo jusqu'aux plus récents. Alissa nous racontera le voyage au ski auquel elle a participé en février avec sa classe. Blue et Lily et Augustine nous ouvriront l'appétit en nous présentant la cantine du collège. Maximilien nous fera découvrir une célèbre course automobile en Allemagne.
Suzy nous présentera quelques inconvénients liés à l'enseigne Sephora. Sean, Léon et Lucien partageront avec nous plusieurs faits insolites. Et pour terminer cette émission, Victoria nous dévoilera les mystères de la célèbre zone 51.
Sans plus attendre, nous commençons avec notre rubrique « Découvrir le monde ».
Présentée par Enora et Aurore.
Bonne écoute à toutes et à tous.
Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, pour écouter notre nouveau sujet dans la rubrique « Découvrir le monde ». Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très rafraîchissant pour débuter l'été, la Laponie. D'abord, il faut savoir que la Laponie fait partie de 4 pays, la Russie, la Finlande, la Norvège et la Suède. Pour commencer, Aurore va nous présenter la capitale de la Laponie finlandaise.
Eh bien, Nora, la capitale de la Laponie finlandaise est Rovaniemi. Petite anecdote, cette ville abrite le village du très célèbre Petit Papa Noël.
Pour info, la Laponie a plus d'une heure de décalage horaire par rapport à la France. Et l'animal emblématique de cette région est le renne et pour la Suède, le cheval de Dalekarli.
Maintenant, nous allons vous présenter les fleurs emblématiques de Laponie. Il y a le chèvrefeuille et la linée boréale.
Puis parlons un peu culinaire. Comme spécialité de Laponie, il y a le saumon, la perche, l'homme de chevalier, le lavaret cru, légèrement salé, les harengs, le renne et de l'élan.
Et comme alcool, il y a l'olut, une bière très populaire en Finlande.
Puis passons à quelques lieux touristiques. Nous avons notamment
Stockholm, Hall Town, Söderman, Stortorget, Alestenar, Lunds, Domkirka, Village du Père Noël, Lapland Hotel Snow Village, Fish Market et Trolltunga, ainsi que des hôtels en glace.
Ouh, qu'il doit faire froid là-dedans. Maintenant, nous allons vous parler histoire. Les Samis sont un peuple autochtone dont le territoire est évidemment la Laponie.
Leur origine remonte à plus de 4000 ans. C'est le dernier peuple indigène d'Europe, qui comprend entre 85 000 et 135 000 individus.
Ils parlent le Sam ou le Saami, et pour les langues courantes, il y a le finnois, le suédois, le norvégien et enfin le russe. Et pour finir, la monnaie.
Comme la Finlande est membre de l'Union européenne depuis 1995 et membre de la zone euro depuis 1999, elle a donc remplacé sa monnaie nationale avant la France en passant à l'euro. On espère vous avoir rafraîchi avec notre sujet et
on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles rubriques. Good.
Bye!
Merci Enora et Aurore pour ce voyage au cœur de la Laponie. C'était un sujet passionnant.
On enchaîne maintenant avec Lou et Charlie qui vont nous plonger dans l'univers de Nintendo et nous donner envie de ressortir nos consoles.
Eh bien bonjour, aujourd'hui sur TF2, on va vous parler de quelque chose que vous connaissez tous, sauf si vous vivez dans une grotte. Donc sans plus attendre, le sujet de TF2, Nintendo. Allez Charlie, en piste.
Nintendo est apparu sur le marché du jeu vidéo dans les années 1970 et a commencé par la fabrication de cartes à jouer japonaises. Puis a diversifié ses actions en 1977 avec la sortie de la Color TV Games. En 1983. Nintendo a véritablement marqué le marché avec des jeux emblématiques comme Super Mario Bros. Et The Legend of Zelda.
Mais comme Nintendo a produit beaucoup de consoles, on vous a fait un petit top 5 des consoles les plus vendues. En top 1, on retrouve la Nintendo Switch avec 150 370 000 de consoles vendues. La Nintendo DS en top 2 avec 154 millions. La Game Boy, top 3, 118 690 000. La Wii, avec 101 630 000. Et en dernier, la Game Boy Advance avec 80 500 000 de consoles vendues. Ces chiffres incluent aussi la vente totale cumulée de toutes les versions des consoles.
Mais Nintendo ne sont pas seulement des consoles. L'entreprise est aussi connue pour ses personnages devenus célèbres dans le monde du jeu vidéo. Parmi eux, on retrouve Mario, le célèbre plombier en salopette rouge, Link, le héros de la série The Legend of Zelda, ou encore Pikachu, la mascotte des Pokémon.
Grâce à ces personnages, Nintendo est devenue l'une des entreprises les plus importantes du jeu vidéo. Aujourd'hui, ces jeux sont vendus dans le monde entier et attirent des joueurs de tout âge.
Avant de terminer en classement des meilleurs jeux Nintendo du moment. En top 1, Tomodachi Life. En top 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild. En top 3, Minecraft. En top 4, FIFA 26. En top 5, Pokémon version rouge-feu. Et en top 6...
Et avant de terminer, un petit micro-trottoir réalisé avec l'équipe de TF2.
Et bonjour, c'est quoi votre console préférée ?
Alors moi, je joue pas sur console, je joue sur ordinateur.
J'hésite entre la 3DS et la Switch.
Et habituellement, tu joues sur laquelle ?
La Switch,
c'est la Switch.
Je dirais que c'est la Switch 2.
Ok. Et c'est quoi ton jeu préféré ?
Alors moi, j'aime bien jouer à Minecraft et à The Legend of Zelda.
Breath of the Wild, je pense.
Minecraft.
Je dirais Minecraft ou Overwatch.
Ben merci.
Pour finir, on vous dit à la prochaine.
Nous retrouvons maintenant Alissa qui va nous raconter son premier voyage scolaire lors de son séjour au ski.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Cette année, nous avons eu la chance de participer à un magnifique voyage scolaire. Ma classe et une autre classe de 5e sont partis une semaine à Font-Romeu et c'était incroyable. Oui, oui, vous avez bien entendu. Incroyable. Lundi, nous avons fait le trajet de l'allée, puis une fois arrivés, nous avons fait une petite randonnée près de l'hébergement qui était aussi super. Mardi, nous avons passé toute la journée au ski. Mercredi, nous avons visité le parc animalier de Font-Romeu ainsi que la ferme pédagogique. Jeudi, nous avons aussi passé toute la journée au ski et nous avons aussi pu acheter des souvenirs pour nous et nos proches. Et vendredi, nous avons fait une heure de biathlon et une heure de ski avant de faire le trajet du retour. C'était super. Et tout de suite, nous allons entendre deux élèves qui sont partis au ski.
Bonjour. Qu'as-tu pensé du voyage au ski ?
Alors, j'ai beaucoup aimé. C'était bien organisé. J'ai vraiment beaucoup aimé, franchement.
J'ai bien aimé. C'était vraiment cool.
Qu'as-tu le moins aimé dans ce voyage au ski ?
Pour moi, c'était peut-être le premier jour parce que j'étais un peu stressée. J'avais pas trop quoi faire, donc voilà.
Les premiers et derniers jours. Le premier jour, j'étais stressée. Le dernier jour, j'étais fâchée de partir.
Qu'as-tu le plus aimé dans ce voyage au ski ?
J'ai beaucoup aimé le ski, apprendre vraiment le ski, parce que moi j'en ai jamais fait, donc j'adore apprendre, donc j'ai beaucoup aimé.
J'ai bien aimé apprendre à faire du ski et les chambres qu'on partageait avec mes amis.
Ok, et si tu avais quelque chose à dire sur ce voyage au ski, ce serait quoi ?
Ça serait très bien organisé, j'ai surtout aimé la boum aussi, c'est bien.
Ce que je dirais, c'est que le bus, c'était pas confortable. Il y en a beaucoup qui ont vomi, c'était pas génial. Et après, ça va, sinon, c'était cool.
Merci.
Merci à Lino et Lana pour nous avoir répondu. Une chose est sûre, tous les élèves garderont un bon souvenir de ce magnifique voyage. Merci beaucoup et à l'année prochaine.
Merci Alissa pour ce beau témoignage. Et tout de suite, direction la cantine avec Lily, Augustine et Blue.
À table!
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way.
La cantine du collège. Bonjour chers Cloutons et chers Goultons. Nous sommes réunis en ce jour pour parler d'une cantine bien particulière. La nôtre à tous. Je veux dire par là, toutes les personnes du collège de Coutaches.
Elle nous permet de manger et donc de rester en vie en tant qu'être humain. C'est donc pour cette dernière émission, allons faire un micro-trottoir.
Que pensez-vous de la cantine ?
C'est bon, mais par contre, il n'y a pas assez de grosses faim, parce que j'ai tout le temps faim.
C'est très bon, mais des fois le pain change et il y a... Des fois, il y a un pain qui n'est pas très bon et un autre bon.
Moi, je trouve que c'est bon, c'est juste le pain aussi le problème.
Que pensez-vous de l'originalité de la cantine ?
C'est bien, mais il n'y a pas assez de grosses faim. J'ai tout le temps faim.
Bah, c'est bien, mais des fois, ça change pas vraiment. C'est un peu tout le temps les mêmes plats, mais je trouve que c'est bien, parce qu'au moins, on sait ce qu'on aime. Du coup, voilà.
Je trouve qu'il n'y a pas assez de différents plats.
Trouves-tu que les repas sont variés ?
Un peu, mais souvent, c'est des choses, genre des légumes ou des trucs comme ça. Et par contre, la viande, c'est toujours la même. Ou sinon, c'est de la viande aux feuilles. Enfin, c'est un peu bizarre.
C'est vrai que des fois, la viande, elle n'est pas très, très bonne. Ou alors, c'est la même viande. Et même les sauces, des fois, elles ne sont pas super, super. Et la viande, des fois, il y a beaucoup de gras dedans.
Je trouve qu'il y a souvent les mêmes plats.
Quels sont vos menus préférés ?
Moi, j'adore tout ce qui est frit, genre des calamars, des cordons bleus, des nuggets et tout et tout. J'aime bien les ratatouilles et tout ce qui a du fromage dedans. Mais par contre, j'aime pas trop la viande et les navets. Et souvent, il y a beaucoup de pâtes aussi. Et j'aime pas trop les pâtes.
C'est souvent quand il y a des trucs avec un peu de panure dessus, genre du poisson pané, des pâtes, tout ça, c'est assez bon. Voilà.
Moi aussi, j'adore tout ce qui est poisson pané, cordon bleu. Mais je trouve que de la viande, c'est pas trop mon truc. Voilà.
Nous retrouvons Madame Grand, la secrétaire générale du collège. Présentez-vous rapidement, quel est votre métier et quel est votre parcours professionnel ?
Bonjour à tous, donc je suis Stéphanie Grand, je suis la secrétaire générale du collège de Quissac. Mon métier consiste à plusieurs facettes. Je m'occupe de la gestion administrative et financière de l'établissement. Je suis également responsable de la sécurité. J'ai sous mon autorité les agents du conseil départemental qui notamment s'occupent donc du service général mais également de la cantine et de la restauration.
D'où viennent les repas de la cantine ?
Alors les repas sont fabriqués au collège puisque nous avons une cuisine autonome, c'est-à-dire une cuisine avec un chef de cuisine, Monsieur Mouline, et un second de cuisine, Monsieur Bouchaudon. Il faut savoir que les repas au collège de Quissac sont quasiment en totalité faits maison. Et donc le matin, le chef et le second, ainsi qu'un aide de cuisine, confectionnent la totalité des repas qui sont servis le midi aux élèves.
Est-ce différent de gérer autant de repas avec un budget pas souvent énorme et pourquoi ?
Alors en effet, il devient de plus en plus compliqué de gérer le budget de la restauration du fait de l'augmentation du coût des denrées, des aliments. Donc le chef de cuisine a un budget spécifique pour les denrées et c'est lui qui gère. Alors il a l'habitude, notamment sur la commande des quantités, avec des quantités en fonction du nombre de repas qui sont établis et que nous connaissons à l'avance. Et c'est lui qui permet aussi de cuisiner une quantité qui correspond aux besoins en fonction du nombre d'élèves le midi à la cantine.
Où trouvez-vous tous ces producteurs bio ?
Alors, il faut savoir qu'au collège de Quissac, 100% des fruits et des légumes de la cantine sont bio, mais également 100% du pain. Donc, on travaille avec un certain nombre de producteurs locaux et bio. C'est un travail qui a été engagé depuis de nombreuses années par mon prédécesseur, mais également par le chef de cuisine, où on est en recherche permanente de petits producteurs et avec des coûts qui restent abordables pour le collège, de manière à proposer des repas de qualité pour l'ensemble des collégiens.
Quelles actions avez-vous mis en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire ?
Alors, nous avons mis en place de nombreuses actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous avons obtenu un label de qualité, un label EcoCert de niveau 2, où la lutte contre le gaspillage alimentaire est notamment prise en compte. Et donc, comme je vous disais, de nombreuses actions ont été mises en place. Nous avons par exemple un bac de troc, où lorsque les élèves, par exemple, prennent un yaourt ou un fromage qui finalement ne souhaite pas manger, dépose l'aliment dans le bac de troc, et un autre élève peut aller le récupérer, ce qui nous évite de pouvoir de jeter des aliments. On a mis en place également le gâchis pain, qui permet aux élèves de pouvoir visualiser la quantité de pain qui est jetée tous les jours, ce qui permet de leur faire prendre, c'est une prise de conscience des déchets et du nombre de la quantité de pain qui est jetée. On a également, les élèves tous les jours ont la possibilité lors du passage pour choisir au moment du choix du plat chaud, d'échanger avec le second cuisine ou le chef de cuisine par rapport aux quantités qu'ils souhaitent. Ils peuvent annoncer une petite ou une grande faim, ce qui permet d'adapter les quantités servies aux élèves en fonction de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, mais également de leur faim. Et dernièrement, on a mis également en place une table de tri où tous les déchets sont triés. Et on utilise notamment, nous avons trois composteurs au niveau de l'établissement qui nous permet de gérer les déchets de la cantine.
Merci beaucoup pour votre témoignage.
Nous allons maintenant interroger le cuisinier. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur, s'il vous plaît ?
Alors, bonjour, je suis monsieur Moline. Je suis chef de cuisine au collège Coutache depuis environ 18 ans. Voilà.
Les collégiens sont-ils respectueux envers vos repas ? Pourquoi ?
Alors, les collégiens, je pense qu'ils sont respectueux envers nos repas, car c'est un moment convivial pour tous. Après, certains ont bon appétit et habitude de manger varié chez eux. Ensuite, on a mis en place petite assiette et une grosse assiette pour la grosse faim et petite faim. C'est pour respecter la nourriture et éviter le gaspillage alimentaire.
Comment cuisinez-vous vos repas ? Avec quels ustensiles ?
Alors, on essaie de prendre de bons produits, frais, locaux, bio. On essaie de faire ça au maximum. Ensuite, on essaie d'y mettre du goût et l'amour de notre métier de cuisinier. Ensuite, on a du matériel qui est adapté pour les 400 convives qu'on fait manger tous les jours, avec de gros fours, de grosses sauteuses, un robot coupe pour tailler nos légumes. Et tout ça, c'est adapté à la quantité.
Est-ce que c'est compliqué de cuisiner autant de plats en peu de temps ? Pourquoi ?
C'est une habitude et une organisation. Donc depuis un certain nombre d'années, maintenant, on prend cette habitude. Ensuite, on est une équipe de 8 personnes, dont 2 cuisiniers de métier, qui commencent à 6 heures du matin.
Merci beaucoup pour vos réponses sur la consigne.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup pour vos réponses sur la cantine. C'était Blue, Augustine et Lily pour la cantine.
Super, bravo. À cause de vous, j'ai faim. Et après avoir eu l'eau à la bouche, on va sur un terrain de course avec Maximilien.
Chers auditeurs et chères auditrices, c'est Maximilien pour cette dernière émission. Je vais vous parler du circuit Nürburgring. En Allemagne, cette année, la course a été dure, car Max Verstappen a perdu le contrôle de sa Mercedes après les 12 heures de Bathurst, Mauro Angeli et Maxime Martin embauchent une deuxième victoire consécutive en Intercontinental en GT Challenge. Le duo possède 50 points au compteur avant les 24 heures de Spa mois prochain. Le podium IGTC sur ces 24 heures du Nürburgring est complètement par la BMW M4 GT3 Evo numéro 99 Row Racing de Dan Wepper, Sheldon van der Linde, Dries Van der et Max Hayes et la Porsche 911 GT3 RS Evo numéro 24 Lipez GP de la Lores Van der Ricardo Pérez et Laurine Erich, Michelin signe la double avec la Mercedes numéro 80 et la Lamborghini numéro 84. Une nouvelle victoire pour le magnifique guerrier français dans l'Eiffel. Les retours des pilotes ont été extrêmement positifs tout au long du week-end, comme des Pierre Alves, manager des programmes endurance de Michelin. Max Verstappen appliquait notamment qu'il pouvait attaquer sans avoir à gérer ses pneus avec un niveau de confiance très élevé tour après tour. Lors du passage du col au médium, il n'a d'ailleurs pas constaté de différentes majeures de grippe. Seulement un comportement différent lié aux températures de la fonctionnement de la Lamborghini a également démontré tout le potentiel des pneumatiques Michelin en réalisant une remontée spectaculaire malgré les plusieurs pénalités et incendies. En début de course, enfin, nos pneus intermédiaires ont fait une vraie différence lors des faibles pluies rencontrées durant l'épreuve. Dans ces conditions très particulières, les voitures équipées de Michelin ont clairement gagné en performance et en compétitive face à leurs concurrents, signés les 2 premières places dans un environnement aussi compétitif avec plusieurs mafuturiers engagés au plus haut niveau GT3, constitue une très grande satisfaction pour Michelin. Et l'ensemble de nos partenaires, cette course se termine vers 16h ou 15h, mais tout d'abord, les pilotes doivent faire un arrêt tous les 6h pour après mieux se concentrer ou se reposer pendant la course. Vu le circuit en hyper dur, car il y a eu des gens qui ont eu des crashs ou ce sont des problématiques si le goudron ne se décolle pas ou du moteur sur les circuits. Ça peut engager de nombreux problèmes pour des coureurs qui les rattrapent mais qu'ils n'ont pas de rechange pour réparer leur véhicule. Merci de m'avoir écouté.
Bravo Maximilien pour ton sujet. Une fois qu'on a bien sué, on part se refaire une beauté tout en retrouvant les inconvénients de Sephora.
Salut à tous, c'est Suzy. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement de Sephora. Sephora est une entreprise française spécialisée dans la vente de produits de beauté et de cosmétiques. Elle a été fondée en 1969 et fait aujourd'hui partie du groupe LVMH. Sephora propose une large gamme de produits comme du maquillage, des soins pour la peau et des parfums.
L'ancienne est connue pour travailler avec de nombreuses marques internationales et exclusives comme Too Faced, Yves Saint Laurent, Dior. Elle développe aussi ses propres produits sous marque Sephora Collection. Les magasins Sephora offrent une expérience client modèle moderne avec un test de produits en libre accès. L'entreprise est très présente en ligne avec un site commerce et une application mobile. Sephora utilise des technologies innovantes pour les essais virtuels de maquillage. Elle est implantée en de nombreux pays à travers le monde, en Europe, en Amérique et même en Asie. Sephora est aujourd'hui une référence mondiale dans le secteur de la beauté et du luxe accessible. Et c'est la fin de cette chronique pour le dernier instrument. Ciao.
Super Suzy, merci. Et nous retrouvons maintenant Sean, Léon et Lucien pour une sélection de faits insolites qui devraient vous surprendre et peut-être même vous faire rire.
Bonjour, c'est Lucien et Sean. Alors Léon n'est malheureusement pas là, du coup on va faire ça. Quelques faits insolites et on commence tout de suite par le fait que les hamsters tiennent très bien l'alcool et même ils l'adorent. D'après l'étude menée par Gwen Lupfer, chercheuse à l'université d'Anchorage en Alaska, les hamsters à état sauvage résistent mieux à l'alcool que les hommes. Ces rongeurs seraient capables de consommer 18 grammes d'alcool par kilogramme chaque jour sans aucun problème, ce qui est l'équivalent d'un litre et demi pour un homme moyen.
Les chercheurs ont également remarqué que ces petits rongeurs ne titubaient quasiment pas, même après avoir consommé de grandes quantités d'alcool. Et aussi, il y a le complot de la Terre plate.
Et
vous
oui.
connaissez la théorie que la Terre est plate ?
Et oui.
Eh bien, on ne l'a jamais pensé. C'est Voltaire qui a inventé ce mensonge pour prouver l'avancée. Et il ne fait pas d'exception. Beaucoup de mensonges sur le Moyen-Âge viennent des philosophes des Lumières qui les ont inventés pour donner l'impression d'apporter un vrai progrès et donner un passé plus tragique à l'Europe. Et pour tous ceux qui vont dire « Eh, mais la religion, ben, c'est pas la religion. » La religion, il n'est jamais dit que la Terre est plate. Le problème avec la science, c'est l'héliocentrisme. Le fait que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Dans le même style, on a au Moyen-Âge des gens qui étaient très sales, ne savaient ni lire, ni écrire, ni compter, étaient alcooliques. Les punitions envers les hérétiques, surtout ceux qui pratiquaient encore les rites païens.
Et oui, tout ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais il faut passer à la suite, y compris le fait que les allumettes ont été inventées après les briquets. Donc on a perdu du temps et logiquement aussi de l'argent à inventer les allumettes, qui entre nous sont moins utiles et moins utilisées que les briquets, alors que ces derniers ont été inventés justement avant. Et pourquoi juste ? Et pour terminer, car il faut bien une fin, à votre avis, quel est le fromage et l'aliment le plus volé dans le monde ? Ça, il faut savoir. Et à votre avis, c'est lequel ce fromage ? À votre avis, devinez.
Et c'est le parmesan italien.
Aussi appelé parmigiano reggiano. Désolé pour mon accent. Et c'est fini. On vous souhaite de bonnes vacances et on vous dit à l'année prochaine.
Merci les garçons, c'était très drôle. Pour terminer cette dernière émission de l'année, place au mystère avec Victoria, qui va nous faire découvrir les secrets de la célèbre zone 51.
Salut les terriens, je vous parle du CDI de collège pour vous parler de la fameuse, l'unique, la zone 51. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la zone 51 ? Eh bien déjà, il faut savoir que même les plus sceptiques ont été secoués par tout ce qui s'y passe et de certains documents confidentiels dévoilés dans l'espace américain. Alors, rentrons dans le cœur du sujet. La zone 51 est une base militaire ultra secrète située dans le désert du Nevada, à environ 130 km au nord-ouest de Las Vegas. Officiellement, c'est une installation de l'USS Fort rattachée au polygone d'essai du Nevada. Pendant des décennies, le gouvernement américain a nié son existence avant de la reconnaître publiquement en 2013 via des documents déclassifiés de la Central Intelligence Agency. En gros, c'est la CIA. Mais ce sujet est vraiment très flou puisque cela n'a pas du tout été facile pour moi de trouver les infos les plus tangibles. Alors, je vais vous dire tout ce que j'ai pu trouver sur ce sujet. Voilà ce que j'ai pu cueillir. Premièrement, la base sert principalement au développement et aux essais d'avions militaires expérimentaux. Certains appareils comme le Lockheed U-2, le SR-71 Blackbird et probablement certains d'autres prototypes furtifs ont été testés. La zone est protégée par une sécurité extrêmement stricte, et oui, pour éviter tout vol d'informations secrets. Il y a donc interdiction de survol, garde armée, des capteurs, une surveillance électronique et même des accès interdits aux alentours. Mais maintenant, pourquoi la zone 51 fascine-t-elle autant ? Le secret autour du site a alimenté énormément de théories. Des stockages d'ovnis, autopsie extraterrestre, réintro-ingénierie des technologies aliens, expériences secrètes et bien plus. Mais d'où viennent ces théories ? Eh bien, voici la réponse. Le lien principal vient de l'incident de Roswell en 1947. Des habitants de cette région auraient vu des anomalies venant du ciel. Beaucoup pensent que des débris, voire des corps extraterrestres, auraient été transférés à la zone 51. Mais d'autres pensent que c'est tout simplement des essais militaires. À vous de croire ou pas. Maintenant, passons à ce que la plupart des historiens et analystes pensent. Pour eux, les essais d'avions secrets pendant la guerre froide, des technologies militaires classifiées et le besoin de cacher ces programmes aux satellites soviétiques et au public. Pour eux, quand les témoins voyaient des objets impossibles dans le ciel dans les années 50-80, il s'agissait souvent d'appareils très en avance technologiquement pour l'époque. Mais d'autres ne sont pas convaincus de cette théorie. Mais c'est bien une affaire qui fait beaucoup de bruit, un dossier X si on peut dire. Mais les camps sont tracés. D'un côté, ceux qui sont très sceptiques, ils ne croient pas du tout à l'existence d'une entité biologique extraterrestre. Il y a ceux qui n'y croient pas forcément, mais ne rejettent pas l'idée d'une telle existence. Et il y a ceux qui y croient, et pour certains, l'assument complètement. Mais voilà, en petit bonus, je vais vous expliquer un incident très connu. L'incident des lumières mystérieuses à Phoenix. Comment cela a commencé ? Eh bien, dans la soirée du 13 mars 1997, à Phoenix, aux USA, des mystérieuses lumières apparaissent au-dessus de la ville et du désert. En forme de V, et des milliers de témoins ont pu assister à ce phénomène hors du commun et ont pensé directement à un ovni. Five Singston, le gouverneur de l'Arizona, affirme avoir lui-même vu ce phénomène. Passons aux observations. Des lumières diverses décrites furent observées par des milliers de personnes entre 19h30 et 22h30, dans un intervalle d'environ 300 miles, en gros pour nous c'est 483 km, allant de la frontière du Nevada jusqu'aux abords de Tucson en passant par Phoenix. Les lumières phénix désignent en réalité plusieurs phénomènes distincts observés la même nuit à des endroits différents. D'une part, une formation triangulaire des lumières traversant le ciel de l'État, et d'autre part, une série de lumières stationnant au-dessus de Phoenix et ses environs. Étrange, non ? Mais tous les incidents n'ont pas forcément besoin d'une explication. Il faut juste croire ou pas. Et sur ce, je vous laisse, chers amis terriens. À la prochaine pour une nouvelle chronique. Et n'oubliez pas, levez les yeux vers le ciel. À l'année prochaine !
Merci Victoria, et comme vous le savez, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que vous avez apprécié les différents sujets préparés par les élèves du club radio du collège de Quissac.
À très bientôt avec Ondes de Choc sur Radio Escapade.
Au revoir et à l'année prochaine.
Collège de Kouta, des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez Ondes de Choc.